Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
RMC.
Grand plateau.
Christophe Cessieux.
Salut à tous, après seulement deux étapes, le Tour d'Italie est peut-être déjà plié. On se doutait bien que Pogacar mettrait vite les choses au point. On n'a pas été déçus, s'il a raté le rose pour un rien lors de la première étape, il s'est rattrapé dimanche, remportant son premier succès sur le Giro et revêtant par la même occasion son premier maillot rose. Pogacar, vainqueur certes, mais pas écrasant. Il a même perdu du temps dans les derniers hectomètres de l'ascension du Sanctuaire d'Europa. Alors comment expliquer ce mystère? Eh bien, on en débat dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, Poggi est bien le maître du Giro, lui qui rêve cette année de réaliser le doublé Giro Tour, plus fait depuis 1998. Alors, y a-t-il une recette pour réaliser une telle performance? On demandera son avis à notre druide qui a connu pareil bonheur avec son blaireau préféré. C'était en 1982. Et puis, comme toutes les semaines, on fera aussi le tour des popotes françaises pour décerner bons et mauvais points. Il sera notamment question de Bardet, de Baudin et autres Cosnefroid. L'équipe de Grand Plateau RMC Sport Intégral Tour, bah oui, maintenant il faut se mettre à la page et citer tous les sponsors de la formation, sera composée aujourd'hui de notre maître et éternel apprenti, Cyril Guimard. Bonjour mon druide.
Oui, bonjour et bonjour à tous, bien sûr.
À ses côtés, son vieux complice breton, Pierre-Yves Leroux. Comment ça va, mon pilou ?
Salut Christophe, ça va très bien. J'ai jamais été apprenti, moi.
Non, t'es devenu maître directement. Et alors, un autre jeune apprenti, lui, le revendique.
Très jeune
par rapport à nous, ça c'est sûr. Johan Bredov, notre spécialiste du Giro, il en a déjà commenté quelques-uns, notre Bredovi. C'est comme ça, désormais, qu'il faut t'appeler. Hein.
Bonjour, Arnaud.
Bonjour. Ah oui, il a toujours le R, il a un peu de mal avec le R.
J'ai un peu de mal à rouler les R, c'est vrai. Salut les gars, salut à tous.
Bon, c'est probablement une immense déchirure pour lui. Ben oui, Tadej Pogacar ne portera pas le maillot rose de la première à la dernière étape du Giro. Il lui manquera au moins une journée. Mais dimanche, en direction du Sanctuaire d'Europa, il a donc pris une éclatante revanche sur les manants qui avaient osé le priver d'une première victoire dès la première étape.
1,5 km de l'arrivée, Pogacar seul en tête, 32 secondes d'avance sur les autres favoris. C'est Ben O'Connor qui a complètement explosé, qui a essayé de suivre Tadej Pogacar, qui était le dernier à tenir sa roue. Il a complètement explosé. T'as raison Christophe, faut pas faire ça, c'est trop compliqué. Il l'a fait, Tadej Pogacar. Hier, il n'avait pas apprécié d'arriver à 3, il avait perdu ce sprint. Il prend sa revanche tout seul, comme un grand, Tadej Pogacar, qui s'impose donc pour cette deuxième étape au Sanctuaire du Europa. La Vierge Noire qui lui sourit. Il a pris 26 secondes d'avance sur ses poursuivants. Un petit peu plus, 30 secondes d'avance pour Tadej Pogacar. Mais voilà, on est juste à la deuxième étape. Tadej Pogacar qui revêtit le maillot rose du leader également. Victoire, et quelle victoire de Tadej Pogacar, la démonstration du Slovène.
Poggi, vainqueur donc de la deuxième étape du Giro dans la plus pure tradition pogacesque, hein, une échappée en solitaire durant un peu plus de 4 km et au bout du compte, victoire d'étape et maillot rose, un succès qui ne nous a pas vraiment surpris, hein, il était attendu, annoncé, et quand il annonce les choses, elles arrivent forcément, hein, Cyril, avec Pogacar, il n'y a pas de surprise. Hein.
Non, il n'y a pas de surprise, mais si on m'avait demandé de faire un pronostic, j'aurais fait comme Pogacar, j'aurais nommé Pogacar.
Ouais. Et tu l'aurais nommé dès la première étape ou alors pour la deuxième?
Oh bah,
il n'a pas manqué grand chose.
Il
n'a
pas
première,
de chance. Hein. Il aurait dû gagner les deux, en fait.
Ouais.
Oui, parce qu'il se fait battre au sprint, il lance d'un petit peu trop tôt. Il fait une petite erreur à ce niveau-là, mais le choix était cornélien parce que c'est où je continue à rouler et pour creuser l'écart sur ses adversaires directs, où j'en garde un petit peu pour être un peu plus saignant pour aller chercher la gagne. Je pense qu'il aurait peut-être dû lever un tout petit peu le pied pour garder un peu plus de jus, parce que finalement, avec les 10 secondes de bonification, il aurait été gagnant sur le coup.
Il fait encore quelques petites erreurs, Poggi. Hein. Bon, pas des grosses.
Mais... C'est pas une erreur, ça. Non, mais... Parce qu'on est dans le final, on est dans le dernier kilomètre. C'est pas évident de réfléchir aussi bien que je le fais quand je suis assis sur une chaise, voilà.
Oui, non, mais tout le monde n'a pas le cerveau formaté comme notre druide.
Il a fait une erreur juste avant qui aurait pu être plus grave. Par contre, là, c'est un peu surprenant.
Oui,
quand même.
Tu parles d'hier, là. Tu parles de dimanche. Oui, évidemment. Ouais. Non, on va en reparler avec cette crevaison, et il continue à rouler. On va d'abord Avant de, bah oui, on va parler de ça d'ailleurs, parce que sans le faire exprès, il a bien tenté de faire vivre le suspense, hein, Johan, parce que franchement, quand on l'a vu à terre, d'abord roue crevée, on était à quoi, 2-3 km du pied.
Ouais, même pas, on était au pied,
11 km de l'arrivée.
Et bah c'est ça, et l'ascension c'est 11,8 km. Donc on était au pied en fait de l'ascension du sanctuaire d'Europa. On le voit tomber, Tadej Pogacar à faible allure. Hein. Tadej, c'est surtout qu'il a crevé de la roue avant, il y a eu ce virage, il attendait lui d'être dépanné avant le virage et ensuite son équipe lui a dit non, attends le virage et on va te dépanner, il a sa roue avant qui a du coup frotté, voilà, qui a glissé et donc il est tombé à faible allure, mais après ça l'a pas empêché de remonter très rapidement, il a retrouvé la queue du peloton, il est remonté en tête au bout de 30 secondes de course, j'ai l'impression, avant donc de déposer tout le monde et de profiter du travail remarquable de Rafa Majka. Voilà, c'est rien pour Tadej Pogacar, oui, petite crevaison comme ça quoi.
Non mais on peut perdre un tour sur une bêtise comme ça. On sait jamais comment on tombe, on se retient sur le poignet. Alors là il avait les gants, ce qu'il a pas toujours d'ailleurs. Enfin je sais pas Cyril, qu'est-ce que t'en penses? On peut se faire très mal même dans une chute de toute bête.
Oui, c'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se passe. Je parle pas des grosses chutes, mais des chutes arrêtées où on n'est plus dans la protection, puisque là, il regarde où est sa voiture, il y a sa roue. Et là, vous pouvez tomber, effectivement, le poignet, le coude, ça peut morfler, voire quelquefois même la tête. Donc oui, enfin bon, là, il s'en sort bien. Peut-être que s'il n'avait pas eu les oreillettes, on ne lui aurait pas dit derrière le carrefour, et tout serait passé avant. Et il n'y aurait pas eu de chute. C'est sacré oreille.
Ah, ça y est, tiens,
je pensais pas arriver là.
Ah non, non, direct, il y va, il fonce direct. Il y a pas de. Rien ne l'arrête sur ce coup-là.
Bah, oui, puisque c'est. Attends, on dit. Tu le fais, on dit au coureur, tu vas plus loin. S'il n'avait pas eu les oreillettes, tu n'y aurais pas dit.
Ouais, alors on va y revenir, hein, on va parler même des compteurs de puissance. Là, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie, mon Cyril, dans un instant. Juste quand même, pour ceux qui découvrent le vélo, Cyril, on ne roule jamais avec un vélo et une roue crevée à l'avant, quoi. C'est pas possible, ça.
Non, on essaye d'éviter la roue arrière. Oui, on peut continuer. La roue avant, si vous êtes en ligne droite sur un beau macadam, vous pouvez continuer. Mais à partir du moment où il faut tourner, c'est marrant, ça le fait pas.
Ça l'a jamais fait, ça le fera jamais.
Ça l'a jamais fait.
Bon, alors ensuite, Poggi, évidemment, après ce petit coup d'adrénaline, ça lui a envoyé un coup de booster. Il se dresse sur ses pédales et il creuse rapidement les écarts dans la montée. Mais étonnamment, Johan, il n'a pas écraser la concurrence, il a compté jusqu'à 33 secondes d'avance avant de franchir la ligne avec seulement 27 secondes. Alors,
c'est ça.
Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Défaillance de Poggi ou quoi?
Je sais que t'allais me lancer sur ça. C'est inquiétant ou pas, mais j'ai l'impression déjà que sur son accélération, il n'a pas tant forcé que ça. Tadej Pogacar, il n'avait pas le masque sur le visage. Il a accéléré petit à petit. Il a fait craquer tout le monde. On va en parler de Ben O'Connor, de Geraint Thomas qui n'a même pas essayé de s'accrocher. Ensuite, on n'est qu'à la deuxième étape du Giro quand même. Ça dure 3 semaines. Il n'avait pas non plus envie de tout donner et de tout mettre sur ces étapes. On n'est pas sur l'Estrade, on n'est pas sur Liège. Là, il va falloir tenir sur la distance. Mais prendre 27 secondes d'avance dès le deuxième jour de course et 45 secondes au général, c'est déjà énorme quand même. Hein.
Ouais. Alors, dans sa chute et son changement de vélo, Pogacar a perdu son compteur de puissance. Et il aurait été, c'est ce que j'ai lu et entendu, Cyril, il aurait été perdu sans celui-ci, incapable de savoir où il en était. Est-ce que tu crois à cette...
Donnez-moi le nom de la personne qui a dit qu'il aurait été gêné.
Non, mais
des noms.
J'étais sur Eurosport. Incapable. Est-ce que tu y crois une seconde à ce genre de truc?
Pas une seconde.
Pas une seconde.
Quand vous êtes parti à 4 bornes de l'arrivée, vous avez déjà gagné toutes les grandes courses au monde. Si vous n'êtes pas capable de gérer uniquement aux sensations les 4 derniers kilomètres. Il faut changer de métier, quoi. qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, non, ça n'a rien changé. En plus, c'est pas un col de 25 bornes. Il sort aux 4 bornes et en fait, il prend jusqu'à 32-33 secondes d'avance, c'est-à-dire qu'il prend entre 8 et 9 secondes au kilomètre. Ce qui est déjà énorme. Et puis, bon, il repère quelques secondes dans le final, parce que derrière, il y a le sprint. Et le sprint fait que vous allez toujours un peu plus vite, alors que Pogacar, il ne savait pas s'il devait lever le bras droit ou le bras gauche. Donc, non, il fait... Il fait une belle montée. Il fait juste ce qu'il faut pour sortir de la roue ses adversaires directs, dont O'Connor, le dernier, qui a réussi à prendre sa roue. Malheureusement pour lui, il aurait mieux fait de ne pas la prendre. Et de lisser un peu plus son effort, parce que derrière, bon, bah, il a avalé son bulletin de naissance. faut pas faire ces choses-là. On sait qu'il est plus fort. Quand il sort, laisse-le prendre 20 mètres, et puis après, tu vois. Si t'es capable de le suivre, tu perds 20 mètres, tu vas rentrer.
Mm-hmm.
Et oui. C'est mathématique.
Pourtant, ils savent, les autres coureurs savent quand même. Oui,
mais ils ont des problèmes de mémoire.
Ah, ben bah, tu vois, ils n'ont pas des problèmes de compteur de puissance, mais des problèmes de mémoire.
Et ils ne se rappellent pas que si tu vas trop dans l'intensité, tu vas te prendre deux brouettes de lactate, et le problème, c'est que les lactates, il faudra les monter jusqu'en haut. Donc, tu es mort. Ouais. Donc, s'ils ne savent pas gérer. Et O'Connor, il avait son compteur, je pense, son GPS. Donc, si tu t'accroches là et que tu sautes, c'est de ta faute, point.
Cyril, est-ce que c'est un problème d'ego pour ces coureurs-là d'essayer de suivre Pogacar ? Est-ce qu'il ne faut pas justement arrêter
tes forces aussi, tu te crois.
C'est ça, ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc d'ego là, de Ben O'Connor.
On peut l'imaginer comme ça, en disant bon, je vais m'accrocher jusqu'au bout, puis s'il se rassoit, c'est parfait. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas avec Vingegaard non plus, ouais, d'ailleurs. Hein.
Ouais. Moi, je pense pas. Quand tu es dans la compétition, Cyril, quand tu es dans la compétition et puis que t'as à peu près les jambes, ouais, tu te dis bah, je tente, je suis pas trop mal, j'essaye de le suivre. Et puis c'est après que tu te rends compte que bah, en fait, t'as fait une bêtise. Mais,
oui, mais au bout de 3 secondes, au bout de 3 ou 4 secondes, tu sais.
Ouais. Mais ah oui, il s'en est rendu compte, Ben O'Connor, à l'arrivée. Hein. Oui, on l'a vu frapper une barrière de manière rageuse.
Je suis le plus bête des coureurs du Tour.
Ouais, voilà. Donc il s'en est rendu compte, ce qui peut être rassurant d'ailleurs. Hein, on va en parler pour la deuxième place, mais ce qui peut être rassurant pour lui, ça veut dire quand même qu'il voilà, il s'est vu un petit peu trop fort, mais qu'il a des envies, des grosses ambitions sur ce Giro.
Alors, certains disent aussi que Pogacar aurait baissé de rythme parce qu'on lui aurait conseillé de ne pas creuser trop d'écart. Peut-être les dirigeants du Giro lui disent « Fais gaffe, Poggi, quand même, nous casse pas la course d'entrée.
» Bon, enfin, hein, les dirigeants du Giro, je pense que c'est les seuls. Une première étape parfaite pour lui. Hein. Ils ont ouais, rajouté la montée du San Vito pour la deuxième fois, ça c'était pour lui. Donc les dirigeants du Giro étaient contents.
Ils vont s'en mordre les doigts quand même.
À 45 secondes.
Parce que là, il n'y a plus de Giro, c'est terminé déjà. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais bon... voilà, quand t'as le grand favori qui met tout le monde d'accord dès la première, enfin dès la deuxième étape.
Bon, dès la première aussi.
Ouais, mais c'est vrai que les avantages, ce qu'il a fait sur les Stradés ou encore sur Liège, et ces écarts abyssaux qu'il a mis à ses adversaires, ont fait beaucoup causer. Ça aurait été encore le cas s'il avait mis 2 minutes à tout le monde sur 4 kilomètres, Pierre-Yves. Hein.
Non, mais là, il est sur une course de 3 semaines. Donc, je pense aussi qu'il se dit, ça sert à rien de puiser un maximum d'énergie en mettant 3 minutes. Je vais les prendre petit à petit. Je vais prendre 30 secondes par-ci, par-là. Et puis, à l'arrivée, bah, l'éclair, il sera facile. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il est dans une perspective plus longue de 3 mois. Mmh. Et c'est le Tour de France derrière. Donc, à mon avis, si à la fin de la semaine, il est déjà avec 2 minutes d'avance, voilà, derrière, il peut gérer tranquillement. Et ça lui suffit pour gagner le Giro, 2 minutes. Donc, c'est plus, à mon avis, lui qui gère et qui ne va pas puiser trop loin dans l'étape de dimanche.
D'accord, il n'empêche, après donc 2 étapes, il est maillot rose, oui, 45 secondes d'avance sur Thomas et Martinez, 54 sur Joost Broek, je ne sais pas, je vais le dire, ça fait quand même beaucoup après seulement 2 étapes quand même, hein. Là, tout le monde n'ose pas vraiment le dire, mais on a l'impression quand même que le Giro est déjà joué.
On le disait avant, le début du Giro, maintenant on est obligé de le confirmer.
Alors le seul truc, c'est que ça peut être, enfin c'est souvent considéré comme pas une erreur, mais c'est difficile de gérer une course en étant leader dès la deuxième étape. Est-ce que la formation UAE va tenter de conserver le maillot ? Est-ce que Pogacar va s'accrocher ? Ou alors est-ce qu'il va pas laisser partir une échappée avec un 100 grades qui prendrait le maillot et ensuite bah, justement ça serait à son équipe d'assurer le poids de la course ? Ce serait un scénario idéal pour lui, ça, Cyril ?
Oui, mais de toute façon, si on prend l'étape d'aujourd'hui, il peut prendre sa chaise longue et puis se mettre dedans toute la journée. C'est les sprinters qui vont en découdre, les équipes de sprinters qui vont en découdre pour essayer d'aller chercher la gagne de l'étape. Sur un grand tour, Tour de France, Tour d'Italie, gagner une étape, c'est énorme. Donc les sprinters vont pas laisser partir un coup qui pourrait mettre en danger Pogacar et les UAE. Donc ça n'est pas envisageable. Et qui plus est, dans cette échappée avec un coureur dangereux au classement général. Donc ça, c'est bien, on peut rêver de ce genre de choses. Mais non, là, il va maintenant jusqu'à l'entrée en France, être dans une gestion économique de la course avec comme leitmotiv permanent, pas tomber, pas faire de faute, pas sortir, voilà, arriver entier. Bon, c'est pas ce qu'il a fait hier, mais bon, ça arrive pas tous les jours, ce genre de choses. Donc, il va être plutôt sur la défensive, essayer de rester vigilant, parce que sur un vélo, il y a que deux roues, il y a que deux points au sol et qu'on peut vite aller par terre. Donc, ça va plutôt être de la prudence et de la gestion pour arriver au pied de la grande étape de montagne que nous allons avoir dans trois jours, pouvoir refaire des différences.
Voilà, donc... Et puis Christophe, il y a quelque chose qu'on n'a pas signalé, mais il n'est pas tout seul. Hier, il y a une belle course d'équipe aussi. À un moment, bien il sûr. Demande à Rafa Majka d'accélérer pendant quelques mètres pour pouvoir placer son accélération derrière. Il y a un Mikkel Bjerg, il est quand même bien entouré pour être protégé. C'est une grosse équipe aujourd'hui, c'est plus comme il y a quelques années.
Ouais. Forcément. Alors, est-ce que les UAE vont quand même contrôler la course, Cyril, dans les trois jours qui nous séparent de la grande étape de montagne, la première de ce Giro?
Ben, ils vont contrôler, oui, ils sont obligés de contrôler, il faut rester vigilant, mais ça, les équipiers peuvent le faire très très bien. Mais c'est contrôler quoi? C'est contrôler l'échappée qui va partir.
C'est ça. Filtrer.
De façon... De filtrer, voilà, le mot est exact, filtrer les échappés qui partent, sachant que de toute façon, à un moment, les trains des équipes de sprinters se mettront en route pour aller chercher dans les 10 derniers kilomètres. Donc, il a juste à filtrer pour pas, c'est pas la peine d'un seul coup de se faire piéger et puis obligé de se faire une petite partouze de 15 bornes pour aller chercher le groupe qui est parti. C'est pas nécessaire, quoi.
D'accord.
Donc, vigilant, tu filtres ce qui part. Et puis après, je sais pas si vous avez vu le plateau de sprinters,
c'est ça.
C'est monstrueux, hein.
J'allais
c'est
le donner justement. Olaf Koij qu'on a pour la Team Visma Lead the Bike, on a Team Merlier, Fabio Jakobsen, Jonathan Milan, Phil Bauhaus, Caden Groves ou encore Caleb Ewan. Il y a du beau monde et même sur UAE, il y a un Juan Sebastian Molano qui peut gagner des étapes au sprint.
Ça va nous faire. Il y a du beau monde. Française, bah. Tout ça.
Il y a pas un français, ça c'est sûr.
Ben finalement, il est là l'intérêt de ce Giro. Qui va être le meilleur sprinter du Giro, non? C'est un peu ça, finalement.
Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand tu regardes le plateau, c'est un plateau royal, quoi. Il manque trois coureurs, quoi. Mais il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être pour les sprinters ou pour les baroudeurs. Et quelquefois, c'est pour moi, mais j'ai compté que 5-6 étapes maximum pour les sprinters quand même. Donc, il ne fera pas se rater. Mm-hmm. C'est pour ça que ça ne peut pas partir demain.
Ouais, d'accord. Très bien. Donc, un tour pour les sprinters et un tour pour Pogacar. Alors, il y a aussi un autre intérêt, c'est qui terminera deuxième? Eh oui, ben voilà, on est déjà au bout de la deuxième étape à se dire qui sera le dauphin de Pogacar. On a vu durant le week-end que la concurrence n'était quand même pas très, 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 très véloce. Hein. Ben O'Connor, on en a parlé. Geraint Thomas, il est toujours là, le vieux combattant gallois. Mais enfin, il est un peu émoussé quand même par rapport à ses grandes années, même s'il est toujours là. Martinez, c'est qui?
Et deuxième au général, hein.
Ben oui. Ah non, parce que lui, par exemple, Cyril, tu parlais tout à l'heure de O'Connor qui n'avait pas su lisser son effort. Geraint Thomas lui répond jamais aux attaques, hein. Il y va tranquille et il remonte comme il peut, quoi. Mais voilà, c'est l'expérience sans doute, hein.
Oui, il a appris à gérer. Il n'est pas tout jeune non plus, ce Geraint Thomas.
Il va avoir 38 ans.
Mais enfin, il fait quand même des erreurs parce que l'an dernier, il s'est fait moucher la veille de l'arrivée dans le contre-la-montre par Roglic. Là, on aurait pu dire qu'il avait peut-être un manque d'expérience. Mais bon, l'expérience, vous savez, c'est comme une lanterne. Ça ne sert qu'à éclairer le chemin parcouru. Donc, il faut se méfier de ces termes-là. Et donc, oui, Geraint Thomas, il va faire sa course avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, avec autour de lui quand même une belle équipe Ineos. Donc, il jouera vraisemblablement dans le top 5, ça c'est une certitude.
Oui, mais alors, c'est pas la question, c'est
ouais,
le deuxième.
La question, c'est le deuxième, c'est pas le top 5. Il faut se mouiller un peu, mon druide.
Ah oh ben, quand je vais me mouiller, je vais te donner mon... Tu veux que je te donne mon tiercé ?
Mm-hmm. Ah oui.
J'ai pas pu éviter de mettre Poggi.
Ah, c'est bizarre.
Mmh, bizarre, ouais.
C'est bizarre, oui. Après, j'ai mis Aish de Broek et O'Connor.
Ah, O'Connor, d'accord.
Martinez, oui, non ? C'est pas parce qu'il a pris, un éclat hier que... et puis, il est dans une équipe qui a le vent dans le dos.
Totale euphorie, hein. Deuxième équipe, je crois. Oui,
ils ont le vent dans le dos quand les autres l'ont de face.
Ouais. C'est incroyable ce qui se passe cette année pour Decathlon. Donc, pour toi, Josh De Broek terminerait le dauphin de Pogacar et O'Connor troisième. Johan ?
Moi, je joue Ben O'Connor deuxième. Parce que hier, bon, il fait cette erreur-là, mais en fait, ça me rassure sur son état de forme. C'est une erreur, c'est juste une erreur. Il a concédé un petit peu de temps, mais je me dis qu'il est en forme. Tu parlais de Decathlon, je crois que c'est troisième équipe UCI, mais bon, deuxième ou troisième.
Mais j'ai lu deuxième.
Peut-être qu'ils sont passés deuxième. Mais en fait, c'est juste énorme ce que fait cette équipe-là. On sent qu'il y a un nouveau vent de fraîcheur. Moi, je me dis que Ben O'Connor peut faire deuxième et troisième. Je ne suis pas sûr de mettre Geraint Thomas, mais je mettrai Dan Martinez parce que lui aussi, il est bien entouré. Il a un Florian Lipovits qui est avec lui, qui l'a emmené d'ailleurs pour le sprint hier. Florian Lipovits, c'est troisième du général du Tour de Romandie. Il est tout jeune, cet Allemand. Je me dis que voilà, je mettrai moi Ben O'Connor deuxième et Dan Martinez troisième.
Ok, tout est enregistré évidemment, on vous ressortira tout ça dans trois semaines. Ça c'est juste pour mettre la pression à Pierre-Yves, tu vois, pour pas qu'il soit ridicule.
Je vais mettre Romain Bardet, moi, deuxième.
L'homme des paris, ça a toujours été l'homme des paris, notre ami Pierre-Yves. Alors vas-y.
Non, je vais faire le choix de la jeunesse avec Uite Brooks en deux, derrière Pogacar. Ouais. Et puis Dani Martinez, plus que Geraint Thomas en troisième également.
D'accord.
J'aime bien Geraint Thomas et sa gestion. Donc ça pourrait être la surprise, mais le poids des ans vont peut-être le sortir du trio.
Et oui, parce que là, t'as cité quand même des jeunes coureurs. Hein. Tout ça, c'est très très jeune, mais ça a déjà beaucoup d'expérience et c'est surtout très talentueux. Nous verrons ça. Tout est enregistré. On vous le ressortira au bon moment. Alors, évidemment, ce nouvel exemple de domination sans partage, eh bien, fait beaucoup causer. Est-ce que ça fait de la bonne pub au vélo ? On a déjà abordé le sujet, Cyril, mais voilà, les semaines se suivent et se ressemblent avec à chaque fois la domination outrageuse d'un coureur, que ce soit dans les classiques avec d'abord Van Der Poel sur les grandes classiques, ensuite Pogacar évidemment sur l'Estrade et sur Liège, et là à nouveau il y a eu Vingegaard qui s'est imposé. Voilà, il y a 3-4 coureurs qui écrasent la concurrence. On a l'impression qu'il n'y a plus de course derrière, quoi.
Oui, c'est une impression, ça n'est qu'une impression, parce que l'écart, il faut toujours le faire. Mais dans toutes les générations, vous avez toujours eu 2 ou 3 coureurs qui ont dominé de façon très très importante. Mm-hmm. Vous avez eu la période Anquetil-Van Looy, vous avez eu celle d'Eddy Merckx.
Ouais, on va en parler.
Après, vous avez quand même celle de Hinault Fignon, qui était quand même 2 coureurs de la même équipe, et ça a duré quand même une douzaine d'années. Et on n'a pas tué le vélo. Ce qui tue le vélo, c'est le fait qu'on n'ait pas de stars.
Regarde ce qui se passe en Formule 1 actuellement. Il paraît que les audiences restent bonnes. Et hier, on a assisté à un Grand Prix incroyable avec la victoire de Lando Norris. Mais la domination vraiment sans partage de Verstappen fait qu'on se désintéresse quelque peu quand même de la Formule 1. Enfin, on s'y intéresse moins qu'il y a 3-4 ans, quand le duel au sommet vraiment mettait tout le monde devant la télévision. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on va assister au même phénomène avec le vélo. Il faut des duels quand même pour que pour susciter l'intérêt.
Oui, mais là tu viens de prendre le meilleur contre-pied. En fait, quels sont ceux qui ont fait le plus de bien à la F1 et quels sont ceux qui ont le plus dominé ? Si on parle de Schumacher, de Prost, on peut parler de Verstappen aujourd'hui.
parce que Prost, pour l'instant Verstappen,
on va pas faire, il y avait Senna
spécial à la fin, mais il y avait Prost Senna quand même, c'est ça, c'est les années qui ont le
plus
marqué.
Oui, non mais c'est exactement ce que je suis en train
d'accord,
de dire.
D'accord, pardon, excuse-moi.
C'est bah oui, c'est-à-dire que vous aviez des duels, mais Verstappen aujourd'hui, il arrive maintenant au niveau des records de Schumacher et de Prost. Et Senna, malheureusement, est parti beaucoup plus tôt. Donc, il est au même niveau que ces champions-là, aujourd'hui. Mmh. Et comme pour être un grand champion, il faut une bonne voiture. Et les bonnes voitures, c'est les grands champions qui l'ont. La domination est peut-être un peu plus,
oui, mais il accède plus à importante. Il accède à des records, mais pour l'intérêt, c'est plutôt ça. Le duel qui est intéressant. Est-ce que la Ligue 1 est intéressante avec Paris Saint-Germain qui gagne tous les ans? Pas tellement, finalement. On s'intéresse aux...
Oui, mais là, tu as tout à fait raison, puisqu'on connaît le, ouais. On connaît le champion.
Oui, alors,
regarde ce qui s'est passé pendant des années avec le tennis, hein, puisqu'on fait des comparaisons avec tous les autres sports, mais, oui. Mais quand tu avais ces trois immenses champions, Nadal, Federer et Djokovic, c'était un régal, et ça a permis de rehausser le tennis, tout le monde s'est passionné pendant ces années-là pour le tennis, donc on a besoin de grands duels, bon enfin c'est comme ça.
Mais hein, on l'a pas en ce début de saison, parce qu'on n'a pas été verni, parce qu'on a eu cette chute autour du Pays Basque aussi,
on était là, tous attendre, ça va être fantastique le Tour de France, ils seront tous là, tous les super, et puis là boum, cette gamelle.
Alors,
dans
c'est quand même pas de chance d'avoir les quatre prévus sur le tour et d'en avoir trois qui tombent. Ouais, ça, c'est autre chose. Surtout le principal favori qui est Vingegaard. Mais il n'y a pas que Pogacar. C'est ça aussi la différence peut-être avec la Formule 1 où on a que Verstappen.
Oui, mais enfin, ils ne s'affrontent jamais quand même.
Mais c'est ça. C'est là où je dis. C'est là où je dis.
On dirait des boxeurs, tu sais, qui doivent s'affronter dans un championnat. On fait encore d'autres comparaisons avec d'autres sports et qui s'évitent pendant des années. C'est dingue.
Oui, c'est ça. Mais on a quand même six grands champions avec les quatre. Donc j'ai parlé avec Van Der Poel et Van Aert. Là, on n'a pas de chance cette saison aussi avec les duels qui sont passés à la trappe, que ce soit pour des chutes, que ce soit pour des blessures, que ce soit parce que les coureurs s'évitent un petit peu. Mais voilà, ils font leur course. Et moi, je trouve ça fascinant quand même. Même si Pogacar est tout seul, je trouve ça fascinant de le voir sur un vélo. Je trouve que justement, c'est une pub magnifique parce que il fait connaître le vélo à tout le monde. En fait, il va être le marqueur d'une génération.
C'est vrai qu'on a besoin de superstars. Je suis d'accord avec toi. Et en plus,
on n'a pas de suspense. Ça, c'est
sympa,
sûr.
Qui a toujours le sourire et qui nous régale.
Bref. Regarde sur la pétanque, parce qu'on n'a pas parlé de la pétanque encore.
Sur la voile, il n'y a pas un truc à faire sur la voile? T'as un autre spécialiste quand même.
Là, c'est un sport au-dessus, on ne peut pas comparer.
Mais le vélo, c'est de la voile, comme dirait notre druide international. Succès qui va en tout cas faire bosser l'ami Pierrot, Pierre Amiche. On lui fait un peu de
pub. Ça changera.
Qui vient de publier un livre intitulé Les Seigneurs des Grands Tours. C'est un gros boulot dans lequel il a recensé avec force, détails, anecdotes croustillantes les 107 coureurs vainqueurs d'au moins une étape sur chacun des trois grands tours. Il y en a donc désormais un 108e au boulot Pierrot. Ça va te changer, comme disait Pierre-Yves. On sent en tout cas en Poggi la volonté de marquer l'histoire de son sport. Il le dit lui-même, il veut tout gagner et il en a les capacités. On le sait, son objectif cette année, c'est de faire le doublé Giro Tour de France, qui n'a plus été fait depuis 1998. Seuls 7 coureurs ont réussi l'exploit. Vous les connaissez, évidemment. Tiens, on va voir avec le druide. Comme ça, paf. Cyril?
Bah quand même.
Bah non, mais
j'en connais au moins un.
On est tous d'accord là-dessus.
Je crois qu'il y a Merckx aussi. Oui, je crois qu'il y a Merckx aussi. Et c'est marrant parce que Bernard Hinault l'a fait une fois avec toi, c'est 82, et ensuite sans toi. Hein. Donc finalement, ce n'est pas toi le moteur.
mais tout à fait. D'ailleurs, j'étais contre les moteurs, moi.
Oui, c'est vrai.
Sur les vélos.
Donc, on rappelle le nom Fausto Coppi, qui a été le premier à réaliser l'exploit de mémoire. Hein. Donc, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Miguel Indurain, Marco Pantani,
tu vas les avoir.
Et Stéphane Roche.
Voilà. Et Marco Pantani est
même
dernier
champion du monde en 87.
Ouais, il avait fait le triplé incroyable. C'est finalement parmi c'est un immense champion Stéphane Roche, mais comparé à tous les aux autres là, il se dit qu'est-ce que je fais là quand même. Hein.
Mais il y en a un autre qui l'a fait le doublé.
Ah.
Un huitième.
C'est Laurent Fignon.
Ah, parce qu'il s'est fait voler dans le Giro, tu veux dire, c'est ça?
Bah, escroqué, oui.
Escroqué.
Et donc, il fait deuxième au Giro et premier au Tour de France.
Mais ça, il faut savoir que dans le Giro, quand t'étais pas un coureur italien, tu te faisais escroquer. Donc, ceux qui ont réussi l'exploit étaient vraiment très, très forts, quand même. Hein. Voilà. Bon. Alors, Cyril, justement, parle-nous de ce grand bonheur que tu as vécu avec le Blaireau en 1982. Là aussi, il y avait très peu de temps entre la fin du Giro et le départ du Tour. Je croyais qu'il y avait un peu moins qu'actuellement, un tout petit peu moins d'un mois. Comment on gère cette période, ces quatre semaines, là ce sera cinq semaines cette année, comment on fait pour garder la forme tout en essayant de récupérer et en remontant au pic de forme?
Alors, sur le plan physiologique et biologique, tout le monde connaît les règles du jeu. Le plus important, c'est pas sur le plan physique, sauf si vous vous relâchez. Mais en fait, c'est sur le plan du mental.
Faut pas aller faire la fiesta pendant 4 semaines, c'est sûr, et boire des coups tous les soirs.
Dans certains sports, je sais que ça se fait, mais pas dans le vélo.
Ouais.
Sinon, vous sortez vite des classements. Donc, c'est surtout au niveau du mental, de façon à arriver totalement frais sur le deuxième objectif. Donc ça veut dire se ressourcer, mais ceci dit, ça ne veut pas dire arrêter de s'entraîner. C'est-à-dire qu'il faut continuer à s'entraîner. Alors une petite semaine où vous allez faire de l'entretien avec plus de jours de repos que dans des semaines normales, de façon à vous régénérer. Et puis après, eh bien vous refaites un cycle de travail pour arriver au départ du Tour de France derrière avec votre potentiel physique, mais aussi avec l'envie. Car c'est souvent le manque d'envie, la fatigue mentale qui fait qu'on explose.
Eh oui, c'est pour ça, c'est le manque d'envie qui explique que des Froomes, des Contadors et compagnie n'aient pas réussi à réaliser cet exploit depuis 1998. On le rappelle, dernier vainqueur de ce doublé, Marco Pantani. C'est quand même étonnant parce qu'on avait là affaire à de grands champions tout de même.
Oui, mais il faut savoir que... Bon, là, Pogacar, il est parti pour faire 3 semaines, peut-être, enfin, je l'espère pour lui et pas pour les autres, d'aller jusqu'au bout avec le maillot jaune. C'est une pression permanente tous les jours. Bon, pour la vigilance, c'est vrai pour tout le monde. Mais pour quelqu'un qui est également leader, tu rentres à l'hôtel une heure plus tard que tout le monde.
Ouais.
Parce que tu es obligé de faire tous les protocoles médiatiques, y compris tous les jours tu passes au contrôle, etc. Bref, ça c'est fatigant. Donc il faut véritablement être très équilibré pour rester un petit peu détaché d'un certain nombre d'obligations. Ne pas s'énerver dans ces obligations-là, parce que souvent vous avez des coureurs, j'en ai marre, attends, j'ai déjà passé une heure hier soir, et qui commencent à vous envoyer promener les journalistes, qui eux font leur métier, plus ou moins bien d'ailleurs. C'est vrai pour les coureurs aussi. il faut trouver un équilibre dans tout cela. Et puis après la course, il va y avoir donc cette période de relâchement qui est totalement nécessaire. Et puis, progressivement, se remettre dans le coup. Il faut être bien entouré aussi, il faut être bien encadré. Il faut aussi autour des gens, équilibrés et intelligents, pour ne pas, eux aussi, se prendre la tête.
Mmh.
Parce que ça marche aussi pour les encadrants.
Toi, tu t'étais pas pris la tête en 82, donc.
Non, moi d'ailleurs je la prenais jamais, mes bras étaient trop petits.
La grosse tête, en revanche, je l'ai prise plus tard, quoi.
Voilà.
Alors cette possibilité de doubler en 2024 a bien évidemment été relancée par la blessure de Vingegaard, hein, qui un mois après sa terrible chute dans le Tour du Pays-Bas se remet doucement de ses blessures. Son directeur sportif Marin Zeeman a délivré ce week-end un message plutôt optimiste. Hein. Il nous dit gagner le Tour sera difficile pour Jonas, mais ce n'est certainement pas impossible. Il s'occupe chaque jour de sa rééducation sous la supervision de notre personnel médical et de nos physiothérapeutes. Nous garderons certainement ouverte la possibilité qu'il soit présent au départ du Tour de France à Florence. Jonas est extrêmement talentueux et nous savons qu'il récupère également extrêmement rapidement. Vous y croyez, vous, ou c'est du bluff?
Il dit tout et son contraire.
Il dit je pense qu'il peut. Ce sera très difficile de gagner le Tour et la possibilité qu'il soit présent au départ.
Il faudrait qu'il soit au départ.
Ouais, c'est même pas la même chose, être au départ et gagner. Même si on se disait, après sa blessure, qu'il ne prendrait certainement le départ que s'il avait une possibilité de remporter le Tour de France. Hein, parce qu'il ne va pas aller traîner sa misère, le pauvre, pendant trois semaines, s'il n'a aucune chance de le remporter. Donc, s'il est au départ, c'est qu'il y a quand même... À moins que les contrats l'obligent à prendre le départ. Mais bon, je pense pas qu'on peut obliger un double vainqueur du Tour à faire ce genre de truc. Alors, vous y croyez, vous, encore ou... Non,
Pour la gagne du Tour, c'est... Ah oui. Pour la gagne du Tour, c'est exclu.
C'est exclu.
Oui, c'est ça. Pour la gagne, c'est...
On est déjà le 6 mai. On est déjà le 6 mai. Et il vient juste de reprendre une activité physique qui est plutôt de la rééducation que de l'entraînement.
Non, il est resté plusieurs semaines à l'hôpital en plus. Il a été opéré. C'est très compliqué. Qu'il soit au Tour, peut-être, mais comme tu disais, Christophe, moi j'ai... beaucoup de mal à imaginer Jonas Vingegaard autour et prendre une pilule par Tadej Pogacar.
C'est pas bon pour l'image.
Attention aux mots qu'on prononce.
Ouais,
hein. Attention.
T'as raison. Non, mais c'est vrai, il pourrait prendre une petite rousse quand même par Tadej Pogacar et qui pourrait lui rendre l'appareil de ce qui s'est passé l'année dernière, en fait. Mais moi, je l'attends plutôt sur la Vuelta. Jonas Vingegaard, là, il aura un petit peu plus de temps pour se préparer et aller chercher un grand tour, parce qu'on rappelle quand même que la Jumbo, l'année dernière, a gagné trois grands tours. Là, c'est zéro qui se profile. Donc, il faudra gagner au moins un grand tour. Et je pense que c'est que la Vuelta qui les attend.
Ah bon, zéro. Seb Kuss, tu ne le penses pas capable de...
De gagner le tour ?
Ouais.
Non.
D'accord. Pierre-Yves, ton avis ? Il y sera au départ et il sera à l'arrivée ?
Le souci, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a. Pas... voilà, donc c'est très personnel, ça, comment on se remet d'une chute. Moi non plus, je pense que... Ça... On a vu avec Pogacar comment une blessure qui était un peu bénigne, enfin pas trop, trop grave, comment ça avait... influencer la suite de sa carrière et de sa saison. Donc moi je pense que ça va être très très compliqué, effectivement, même qu'il soit au départ. Et c'est bien dommage, parce qu'on aurait pu avoir un tour formidable. Ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est évidemment. Pas pour ça que Pogacar
non, mais je trouve que vous êtes peut-être vous fâcher, mais on perd notre temps là sur Vingegaard.
Ouais,
il a passé 15 jours d'hôpital.
Voilà, il faut le ranger.
C'est que 15 jours
ranger.
D'hôpital, ouais. Vous avez pratiquement une fonte de 60-70% de votre masse musculaire. Et pour la refaire, c'est pas en 15 jours, c'est en plusieurs mois. Il a eu des blessures très graves, puisque ça, il a fallu passer sur le billard, et des fractures, des lésions qui touchent directement le centre même du moteur. Qu'est la respiration ?
Mm-hmm. Ouais. La cage thoracique, les poumons.
Bon, à partir de ce moment, c'est pas possible de revenir. Regardez, Egan Bernal, il revient seulement après un an et demi. Froome, il est jamais revenu. Mm. Bon, faut bien regarder les choses. Donc quelqu'un qui est 15 jours à l'hôpital, je suis désolé. S'il est 15 jours à l'hôpital, ça veut dire que déjà derrière, il a au minimum 15 jours à 3 semaines où il est dans la rééducation fonctionnelle, pas sportive.
Ouais. Faut se souvenir de la chute de Evenepoel aussi en début de carrière.
Eh oui,
ça avait mis énormément de temps.
Tour de Lombardie.
Il a mis un an. Ouais. Il a mis un an.
Ok, donc on perd notre nom, donc on va ranger Vingy et on le sortira.
Mais tu le veux ton duel, c'est pour ça.
Bah ouais, mais moi je suis tellement déçu de pas avoir mon duel que voilà, je fais mon petit caprice.
Et on en trouvera un autre, t'inquiète pas.
Ah bah tiens, alors pourquoi pas Roglic, qui lui paraît-il s'entraîne actuellement aux Canaries sur les pentes du Taïdé. Ses chutes étaient quand même bien moins graves que celles de Vingegaard, évidemment.
Il s'est pas fait opérer lui.
Oui, mais lui il en a fait plusieurs.
Mais lui il peut retomber à tout moment, c'est ça le souci.
Que des contusions.
Un autre. Non, ce sera pas lui.
Très bien. Bon, on verra. Evenepoel, non. On a des nouvelles d'Evenepoel. Vous avez vu des choses passer sur.
Non, mais Evenepoel, c'était la clavicule.
La clavicule et l'omoplate aussi, non.
Et c'était l'omoplate, oui.
Ouais. Evenepoel, tu peux peut-être le mettre.
Ouais.
Pour ton duel.
Ah bon.
Bien sûr. Bien sûr qu'on en a un.
Bon.
Ça va faire pchit, ça. C'est trop dur pour lui. Je suis convaincu que c'est trop dur encore pour Remco Evenepoel, le Tour de France.
Bon, ben nous verrons. En tout cas, le grandissime favori pour le Giro et peut-être pour le doublé, c'est Pogacar, qui est en pleine possession de ses moyens. Le Slovène rebaptisé le petit cannibale. Toi qui as connu le grand, le vrai cannibale, Cyril, est-ce que tu retrouves en Pogacar les mêmes traits de caractère qu'Eddy Merckx, ou alors les personnages sont complètement différents ?
Non, les personnages sont complètement différents.
Non, alors je parle pas du caractère, du caractère. En...
Son meilleur ami.
Ouais,
son...
Oui. Non, mais sur un vélo, cette volonté de gagner, est-ce que c'est la même chose, la même détermination, la même volonté d'écraser l'adversaire? Est-ce que tu retrouves des choses similaires entre les deux hommes?
On retrouve les choses chez Pogacar qu'on a chez tous les grands champions.
Mmh. Oui, c'est pas seulement Merckx.
Qui s'appelle Bernard Hinault, qui s'appelle Coppi, qui s'appelle Merckx. Mais s'ils n'ont pas ça, ils ne sont pas grands champions, indépendamment du potentiel qu'il faut avoir. Non, les seules choses qu'on peut analyser, ce n'est pas à ce niveau-là, c'est le comportement. Mmh. Et sur ce plan-là, vous ne retrouvez pas chez Pogacar le comportement de Eddy Merckx. Bon, vous avez un garçon qui est riant, qui est souriant, qui n'hésite pas à dire des choses, qui réalise aussi des exploits spectaculaires. Quand on voit Pogacar, on a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui, un, aime le vélo, aime se faire plaisir. S'il est battu, bah tant pis, il va pas pleurer. J'ai presque envie de dire bien au contraire. Il a une fraîcheur absolument extraordinaire. Alors que chez Eddy Merckx, vous aviez quelqu'un de renfermé, qui parlait très peu, y compris même au sein du peloton, ce qui ne remet pas en cause l'homme en tant que tel et le champion. Ils avaient des comportements totalement différents.
Mmh. Alors, pourtant, Pierre-Yves, si on se tourne vers le passé, hein, on réalise qu'en 1970, alors que Merckx a le même âge que Pogacar actuellement, leurs palmarès étaient sensiblement les mêmes. Parce qu'on se posait la question ce week-end de savoir, dans les grandes gueules du sport, s'il avait une chance d'égaler un jour Eddy Merckx. En 70, à 25 ans, dis-nous un peu ce qu'il en était de leurs palmarès respectifs.
C'est vrai que c'était assez proche, parce que si on compare au même âge, ils ont gagné deux Tours de France. Le Cannibal avait déjà un Giro en poche qu'il avait remporté à 23 ans. Ça, c'est pour les grands tours. Mais le Slovène a la possibilité d'égaliser dans trois semaines pour le Giro. Et puis pour les classiques, excepté pour le Lombardie où Pogacar est déjà à trois victoires contre deux aux Belges, mais est remporté après ses 26 ans. Eddy Merckx restait un peu plus complet parce que Eddy avait déjà au même âge gagné Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, là où Pogacar a quand même deux Liège-Bastogne-Liège à son trophée de chasse et puis un Tour des Flandres. Donc dans les prochaines saisons, s'il réussit à accrocher un Milan-San Remo où il s'est classé, il ne faut pas l'oublier, 5e, 4e et 3e sur les trois dernières éditions, et puis un Paris-Roubaix où là il n'a jamais participé mais il voudrait le faire d'ici dans deux ans, c'est ce qu'il dit, là on pourra dire que Pogacar a égalé ou dépassé peut-être le roi Merckx dans les classiques. En revanche, pour ce qui est des courses de trois semaines, il faudra quand même gagner trois autres Tours de France, cinq Tours d'Italie au total, un Tour d'Espagne pour devenir un vrai cannibale. Et puis juste un petit détail, Eddy Merckx, il a été aussi trois fois champion du monde.
Trois fois champion du monde, recordman du monde de l'heure. Il a gagné toutes les courses, je crois. Il y en manque deux, Paris-Tours et Tirreno-Adriatico. Autrement, il a tout gagné. Donc,
Il les a pas gagnés, celle-là.
Non, ben non, je sais pas ce qui s'est passé. C'est toi qui as dû l'empêcher, hein, empêcheur de tourner en rond, empêcheur de cannibale de manger tout ce qu'il voulait.
C'est très le super prestige.
Alors, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que la concurrence et l'organisation des équipes aujourd'hui n'a rien à voir avec 1970.
Voilà, et puis la densité du peloton beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle l'était en 70. En 70, t'avais quoi? T'avais 5 nations à peu près qui se disputaient les victoires. Enfin,
t'avais l'ancienne Europe.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un peloton international avec des Sud-Américains, des Australiens, des Américains, évidemment, et des Slovènes. Il n'y a pas de Slovènes.
Et des Slovènes, il n'y en avait pas à l'époque.
Il n'y a pas de Slovènes en 70, rien du tout. Très bien. Voilà pour Poggi et pour les seniors. On va maintenant s'intéresser à nos Français parce que c'est l'heure du baromètre des Bleus.
RMC, le baromètre des Français.
Et on va commencer par un garçon qui, après nous avoir régalé dans Liège-Bastogne-Liège, nous a déçu ce week-end sur le Giro, Romain Bardet, qui a pris deux claques lors des deux premières étapes sur un parcours qui semblait pourtant taillé pour lui. On ne s'y attendait pas, hein, Johan. Hein, franchement, là, c'est la surprise. Alors, autant la première étape, tu dis, c'est pas grave. Mais là, coup sur coup, hein, parce que la deuxième, c'était la même chose.
On s'attendait même à un podium possible pour Romain Bardet, tellement il était en forme. Lui-même le disait, je suis dans la forme de ma vie, je suis dans mon prime. Mais voilà, il a des problèmes intestinaux pour ce premier week-end de course. Romain Bardet, ça lui a coûté cher sur la première étape dans le Collet Maddalena. où il a perdu énormément de temps, même s'il a limité la casse quand même en échouant à une minute de Jonathan Narváez. Et puis donc le lendemain, lors de la deuxième étape, il a encore perdu du temps, il était encore avec Jonathan Narváez et là il a concédé un peu moins de deux minutes, Romain Bardet. Mais voilà, c'est les espoirs de top 3 s'envolent un petit peu pour Romain. Faudrait qu'il aille mieux la semaine prochaine. Là, on l'a dit, on en a parlé, il y a trois courses de plaine. Normalement, il devrait pas perdre de temps. J'espère qu'il va se remettre très vite. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que tu le disais sur Liège.
Non,
quand même,
il nous a régalé sur Liège. Donc, on avait retrouvé espoir de voir notre ami Bardet bien briller sur ce Giro. Mais là, à 2 minutes 31 du Maillot-Rose, ça va être compliqué de s'accrocher pour le général. Qu'est-ce qu'il peut espérer peut-être une victoire d'étape désormais, Cyril?
Ah, je pense qu'il y a énormément d'étapes qui peuvent lui convenir, pas celle des sprinters bien sûr, mais là il est à 2 minutes 30 et il y a pratiquement 60 km de contre-la-montre.
Ouais.
Donc
ouais.
À ces 2 minutes 30, vous en rajoutez 2:30, ça fait 5.
Ouais, ça fait
c'est parfait. Mais c'est parfait pour aller chercher des étapes, justement.
Ben oui.
Moi, je pense que ça lui permettra de se glisser plus facilement dans des échappées.
Et rappelez-vous que dans un Tour de France où il était complètement à la rue, il a gagné le classement de la montagne.
Ouais. Aussi, oui.
C'est vrai. Voilà donc pour Romain Bardet. Le premier Français au général de ce Giro, c'est Alex Baudin. Il est 13e à 1:38. Le coureur de Décathlon, auteur d'une très belle première étape, hein, puisqu'il a pris la 4e place et s'était même emparé du maillot blanc de meilleur jeune avant de déchanter un peu dimanche. Ce maillot blanc, alors on a parlé tout à l'heure de Just de Brooks, que vous voyez terminé 2e. Donc il est inaccessible pour Baudin. Là aussi, il va courir peut-être pour la 2e, 3e place. Mais bon, en tout cas, c'est un garçon intéressant, hein, Cyril.
Oui, depuis le début de saison d'ailleurs, il à l'image de l'équipe, hein,
bien sûr.
Réalise de très belles choses. Il a, écoutez, il a 23 ans, donc il n'a pas encore utilisé, je pense, tout son potentiel. Ce sera intéressant, effectivement, de le voir sur ce Tour d'Italie, voir jusqu'où il peut aller. Moi, je trouve que garçon à suivre.
Très bien. Et puis,
enfin, faut l'oublier, à mon avis, quand même, pour la deuxième place du classement au maillot blanc.
D'accord.
Bah, il a terminé 14e de la deuxième étape. Il a dit qu'il avait fait une course rêvée. Donc, c'était une course parfaite
d'accord.
pour lui.
Donc, 14e du maillot classement du meilleur.
Ouais, peut-être pas, mais.
Mieux quand même. Et puis, on ne l'attendait pas pour le général. On avait raison. Julien Alaphilippe est déjà très loin au classement. Plus de 7 minutes 30 de Pogacar. Un mot des Français engagés sur les courses bretonnes du week-end, hein, Cyril.
Ah, quand même.
Voilà. Avec un nouveau bouquet, le 5e de la saison pour Benoît Cosnefroy, vainqueur du Grand Prix du Morbihan. Ça, c'est une vraie course. Il réalise une superbe, superbe saison, même si on espérait peut-être encore un peu mieux sur les grandes classiques ardennaises. On rappelle qu'il a quand même terminé 4e de la Flèche Wallonne. 5 victoires depuis le début de la saison. Cosnefroy, vraiment, c'est incroyable cette saison. Hein.
Non, c'est pas incroyable. C'est les saisons qu'il aurait dû faire depuis plusieurs années.
Ah oui, mais il s'est raté l'année dernière.
Donc il est tout simplement cette année en train de venir à son niveau.
Ouais.
N'oubliez pas qu'il a été champion du monde.
Hein. Ouais. Bon, s'il s'arrête pas dans les montées pour faire la fête avec ses supporters,
étouffer l'affaire. Elle a été très mal vécue par les supporters.
Non, très bien vécue par les supporters et par nous aussi. Bien franchement, ils nous avaient régalé. Un peu moins par la direction sportive d'AG2R à ce moment-là, mais franchement, c'est des images qui resteront en mémoire. Et puis dimanche sur le Trobron-Léon, ça aussi, je sais que vous l'adorez, Pierre-Yves et Cyril. On signalera la très belle deuxième place de Clément Venturini, le champion de France de cyclocross, très à l'aise évidemment dans les Ribinous, c'est comme ça qu'on dit.
Exactement.
Un peu moins, les Ribinous.
Un peu moins quand même qu'Arnaud Delis, de retour au sommet de sa forme, là, hein, qui a été étincelant hier.
Ah oui, avec une super équipe qui l'a amené. Il crève deux fois, il est lâché, il revient. On se dit, il n'y a que lui qui peut gagner. Effectivement, il s'impose derrière. Très, très belle victoire d'Arnaud Delis.
Il n'est pas français, malheureusement, il est belge. Hein.
Oui, et il n'est pas breton. Et tu sais que c'est le premier coureur breton qui gagne un cochon au Trobron-Léon.
Ah ouais.
Et oui, et il a voulu négocier avec Mathis Lebert qui l'a gagné parce qu'il est fils d'agriculteur, il voulait récupérer le cochon.
Génial.
Ouais, mais il faut savoir que l'organisateur du Trobron-Léon estime que ce cochon, il est offert au Breton parce qu'il veut pas que le cochon voyage et qu'il parte trop loin parce que c'est pas bien. Donc voilà. Donc c'est le Breton qui gagne le cochon.
Il faut qu'il
reste
dans la famille.
Faut pas que les Belges nous piquent nos cochons. Enfin.
Non. Vous en avez pas créé quand même en Bretagne des cochons. Hein.
Et ah oui, ça, je crois savoir que Arnaud Delis est wallon. Arnaud Delis est wallon. On aurait pu.
On aurait pu me filer un cochon quand même. Franchement, les Bretons, vous partagez pas. Vous êtes pas
ouais, oui, oui, moi je pense, oui. Bon. Ou alors il va falloir le naturaliser breton.
Très bien. Vendre cochon. Voilà pour notre baromètre des Français. Avec toi, Johan, on regarde maintenant les moments faire rapidement de la semaine cycliste à venir. Évidemment, sur le Giro, Cyril en parlait, il y a une étape de montagne qui nous attend, qui va être magnifique dans 2-3 jours.
Hein. C'est ça, ça va débuter déjà par 3 étapes de plaine en comptant aujourd'hui. Les sprinteurs qui vont enfin pouvoir se montrer. Ça va leur faire du bien quand même. Et puis aussi, on va pas l'oublier, celle-là, jeudi 9 mai, l'étape qui reprend un petit peu le parcours des Strade Bianche, les chemins blancs.
Ah oui.
Christophe. Et celle-là, attention, elle est intéressante.
Et c'est
parce
là
que
Pogacar va leur mettre 10 minutes.
Eh oui, parce que Pogacar les a gagnés 2 fois les Strade Bianche. On se rappelle de ce qu'il a fait cette saison. Le lendemain, il y a le premier des 2 contre-la-montre individuel de ce Tour d'Italie. 40,5 km, 34 bornes de plat avant la montée vers Pérouse. Et samedi, donc, journée 5 étoiles, comme l'annonce le site du Giro. Une des étapes les plus difficiles de ces 3 semaines entre Spoleto et Prati di Tivo. 3 ascensions, une de 2e catégorie, une de 3e, la descente, puis donc cette montée due à Prati di Tivo, classée en première catégorie, 14,6 km, 7% de moyenne et des pentes maximales à 12%, c'est pas mal. Et ensuite, une journée un petit peu plus calme dimanche au départ d'Avezzano. Quoique, 214 bornes, dont les 40 dernières sont bien casse-pattes avant l'arrivée à Naples, à la veille donc de la première journée de repos.
Parfait, ben on va se régaler, on l'espère évidemment, dans cette semaine du Giro qui nous attend. Merci messieurs, je vous souhaite une belle semaine.
Merci les amis.
Belle semaine de vélo et on se retrouve lundi prochain hein, pour analyser tout ça.
On sera là.
Kenavo.
Kenavo et bon cochon. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.